Chapitre 15. Les amours du Sphinx. La nuit fut, pour Jacques, terrible à passer. Ainsi, Caroline l'avait laissé insulter sans le défendre. Elle l'avait vu souffrir sans le consoler, et même, au lieu de se disculper, au lieu d'avouer sa faute, elle l'avait encore aggravée. Et la dernière pierre, la plus lourde, la plus écrasante, c'était elle qui, comme coup de grâce, l'avait lancé. Ainsi, elle ne l'aimait plus, c'était bien fini, et déjà, sans doute, elle aimait Arthur. Car, sans ce nouvel amour, est-ce qu'elle eût pu se montrer si dure et si impitoyable, elle d'ordinaire si tendre et si généreuse? Ainsi, il avait brisé les espérances de sa mère, abandonné sa famille, compromis son avenir. Il s'était jeté dans une vie d'aventure et de honteux expédients. Il avait abaissé son caractère, fait de sa dignité litière à sa passion. Lui, autrefois si fièrement chatouilleux, il avait supporté les railleries du critique et de Chaise-Martin, et, s'humiliant avec une gaieté forcée devant eux, il avait chaque soir étouffé de honte devant lui-même, pour se voir maintenant délaissé, trahi, bafoué. Ah, pendant qu'il en était encore temps, avant que l'habitude de la lâcheté volontaire ne l'eût rendu lâche tout à fait, il fallait s'arracher à cette vie de souffrance et de tromperie, il fallait rompre, il fallait fuir. Et dans son étroite chambre, agitant ses pensées, il marchait fiévreusement. Ce retour sur ce qu'il avait enduré l'indignait contre Caroline et l'indignait encore plus contre lui-même. Oui, oui, il fallait rompre, il voulait rompre. Longtemps il se répéta ces paroles, comme pour s'habituer un peu à la terrible idée qu'elles exprimaient. Puis, après bien des hésitations, bien des larmes, bien des colères, se croyant solidement affermi dans sa résolution, il voulut tout de suite prévenir Caroline, et il se mit à sa table pour lui écrire. Toutes ces humiliations, tous ses sacrifices, il la rappela avec une douloureuse complaisance. Mais, en évoquant ainsi le passé dans ce qu'il avait de poignant, il l'évoquait aussi dans ce qu'il avait d'enchanteur. Joies et souffrances se présentaient en même temps et luttaient ensemble. Contre les irrésistibles frissonnements des heureux souvenirs, que pouvaient les blessures cicatriser des tristes heures? Alors, les larmes lui montaient aux yeux. Il s'arrêtait le cœur gonflé. Il revivait dans les jours écoulés. Elle était souriante, affectueuse, pleine de tendresse et d'amour. Il la revoyait dans leurs soirées au coin du feu, dans leurs promenades à Fontenay, dans leur paradis des bois de Crillon. Où retrouverait-il jamais une femme qui eût une telle grâce et une telle beauté? Où retrouverait-il jamais des promenades qui eussent un pareil charme, une pareille poésie? Contre cette magie vertigineuse cependant, il tâchait de réagir. Dans tous ses souvenirs, il s'efforçait de faire un choix partial, cherchant les mauvais, repoussant les bons. Mais plus d'une fois le courage lui manqua, les hésitations lui revinrent, bien souvent il s'interrompit, pendant de longues heures, il resta la tête plongée entre ses mains, partagé entre la colère et l'amour, et il n'avait point encore fini sa lettre quand les bruits de la rue lui annoncèrent que le jour allait bientôt paraître. Mais le matin a des faiblesses et des défaillances qui lui sont propres, et il apporte avec lui de vagues tristesses mêlées à de vivaces espérances, qui ébranlent toujours et modifie souvent les déterminations du soir ou de la nuit. Jacques était à bout de force, frissonnant de fièvre, anéanti de désespoir, et les choses matérielles en même temps commençaient, sans qu'il pût trop savoir pourquoi, à lui paraître plus inquiétante, plus lugubre. L'aube qui, triste et grise, blanchissait la fenêtre, la lampe qui, épuisée d'huile, donnait une lumière jaune et fumeuse, le froid qui devenait humide et pénétrant, ses influences sur lui s'abattirent lourdement. Il se sentit plus indécis, plus effrayé, plus malheureux encore. Il touchait au moment de l'exécution. Il allait partir, il ne la verrait plus, tout serait fini. À la place de sa résolution, il ne trouvait plus en lui que d'étouffantes angoisses. Pour s'exciter, il relut sa lettre. Elle ne l'affermit point. Elle l'affaiblit et l'attendrit encore plus. Elle lui sembla injuste. Il avait été aveugle, non, Caroline n'était pas, ne pouvait pas être aussi coupable. Cette lettre était stupide et lâchement cruelle. Et, avec la même ardeur qu'il avait mise à entasser les griefs, il tâcha de grouper et de lier des excuses concluantes. Excuse pour ce qu'avait fait Caroline, excuse pour ce qu'il se sentait prêt à faire lui-même. Elle était malade, il avait été un fou de ne pas le comprendre, il serait maintenant au moins un maladroit de vouloir rompre. Chaise Martin, seul, avait tout fait. Fallait-il lui céder la place? Pourquoi ne pas aller jusqu'à la fin? Elle avait parlé d'un état, pourquoi n'en pas essayer? N'était-ce pas une preuve d'amour que cette tentative? Que demander de plus que cette affectueuse prévision de l'avenir? Ainsi lancé dans cet ordre d'idées, il en vint à trouver la conduite de Caroline presque naturelle, à l'innocenter, en rejetant sa dureté sur la maladie. Il brûla sa lettre qui, maintenant, lui faisait horreur, et ne songea plus qu'à réaliser le moyen qu'elle lui avait indiqué. Mais là, précisément, était la difficulté. Que faire? Il n'était bon qu'à être homme de lettres, il le sentait, il le voyait. Cependant, à force de chercher dans les métiers qui touchaient le plus près à la littérature, il en vint à penser à la typographie. Il n'avait jamais vu l'intérieur d'une imprimerie et son excessive maladresse eût dû le détourner de concevoir un pareil dessin. Mais, en ce moment, il ne raisonnait pas. On lui avait indiqué une issue et il s'y engageait follement, sans savoir quel serait le résultat de sa témérité. En traversant le passage du Caire, sur la devanture de presque toutes les boutiques, il avait lu le mot « imprimerie ». Et il en avait conclu que le quartier général de la typographie était situé là. Il y alla donc tout d'abord. Avant d'entrer, il regarda par les vitres. L'aspect des presses lithographiques, la force qui lui parut nécessaire pour mettre ses machines en mouvement, la rude physionomie des ouvriers l'effrayèrent tellement qu'il n'osa point s'y risquer. Il alla dans la rue Saint-Denis, la traverse, et au-dessus d'une porte cintrée assez basse qui ouvrait sur une allée ou une rue, il lut ces mots. Cour des Bleus. Machinalement, il entra. C'était une agglomération de maisons, au milieu desquelles circulaient plutôt des ruelles que des rues. Ces étroites voies étaient encombrées ou de meubles hors de service ou d'ustensiles de ménage qu'on avait pu mettre ailleurs, ou d'objets qui frappaient les yeux de Jacques pour la première fois et qui, par leur étrangeté, leur noirceur et leur odeur d'encre lui parurent devoir relever de la typographie. Dans la maison qui avait la devanture la plus encombrée, il entra, et par un escalier roide et droit comme une échelle, il monta au premier étage. Il se trouva face à face avec un homme sec, grand et râpé, qui avait plutôt l'air d'un usurier que d'un imprimeur.
« Vous êtes imprimeur, monsieur ?»
demanda Jacques.
« Certainement, »
répondit le grand bonhomme, choqué de la question.
« Eh bien, monsieur, je voudrais l'être aussi. »
Le grand homme parut assez surpris d'une demande aussi saugrenue.
« Vous voulez acheter un brevet ?»
dit-il. « Non, monsieur, je suis plus modeste. Je voudrais être ouvrier. »
Le grand homme eut l'air de se dire.
« Qu'est-ce que ça me fait ?»
Et il commenta aussitôt cet air.
« On n'est pas ouvrier sans être apprenti. Avez-vous travaillé quelque part? Savez-vous quelque chose du métier ?»«
Non. Je voulais vous demander si d'abord c'était bien difficile, et ensuite si vous pourriez m'employer parmi vos ouvriers. »«
Je n'ai pas d'ouvrier et ne fais pas travailler. J'ai des rapports avec les imprimeries, mais je n'imprime pas. Quant à vous expliquer le métier, je n'ai pas le temps, c'est trop long. Mais je vous conseille de ne pas aller dans beaucoup d'établissements vous proposer comme vous venez de le faire. Vous auriez peu de chances d'être accepté.
Jacques s'en retourna fort désappointé, rue de Buffault.
Il paraît, se disait-il en marchant, qu'on n'entre pas facilement dans la typographie. Ne pas me présenter ainsi. Comment diable veut-il que je me présente? Je ne peux pourtant pas dire que je sais parfaitement le métier, quand je ne me doute même pas comment ça se fait.
À mesure qu'il approchait de la maison, la honte le serrait à la gorge. Rentrer sans résultat, sans espérance, c'était mal débuté. Il était arrivé jusqu'à sa porte, lorsqu'en levant les yeux, il remarqua qu'une des boutiques d'à côté était précisément occupée par une imprimerie. Et sans se donner le temps de la réflexion, il entra. Une petite femme grassouillette, à l'œil vif et provoquant, marchant en développant sa poitrine, qui tremblait dans son corsage bien serré, vint au-devant de lui avec un air souriant.
« Que désire, monsieur? Nous faisons les morts en 2 heures et les mariages aussi. »
« C'est en effet pour mon mariage que je viens, » pensa Jacques. « Mais il ne se fera pas en 2 heures. »
Quoique cela lui coûtât beaucoup, il renouvela exactement, dans les mêmes termes, l'aveu qu'il avait fait au grand bonhomme de la cour des Bleus. La petite femme l'écouta attentivement, en le regardant avec douceur et intérêt, et quand il eut fini,
« Pauvre jeune homme !»
dit-elle.
« Je comprends. Vous voudriez être compositeur. »«
Je crois, » répondit Jacques. « Enfin, » dit-il, en ouvrant un livre qui était là, et en essayant de se faire comprendre comme un Anglais perdu dans les rues de Paris. « Je voudrais être de ceux qui font ça. »
Il montra la page de ceux qui mettent ça sur le papier.
« Pauvre monsieur, il n'en sait pas le premier mot. Je vous emploierai avec plaisir. »
continua-t-elle en lui lançant de ses petits yeux humides et noirs un regard ému.
« Mais nous n'avons pas de compositeur, nous autres. »«
Oh, je ne tiens pas à être compositeur. Si vous voulez m'employer à autre chose... »«
Je le voulais, »
interrompit le regard de la petite femme.
« Ça m'est bien égal, » continua Jacques, « pourvu que je sois dans l'imprimerie. »«
Vous êtes bien faible pour être pressier. »«
Mais je ne tiens pas à être pressier. »«
Tenez, »
fit-elle avec douceur.
« Si mon mari était là, il vous expliquerait ça plus en détail. Mais nous sommes lithographes, et c'est dans la lithographie que vous voulez entrer. »«
Décidément, » se dit Jacques en sortant, « je n'ai pas de bonheur. Je ne me doutais pas ce matin qu'il y avait des imprimeurs qui n'imprimaient pas, et d'autres qui ne prenaient pas d'ouvriers. Enfin, à la grâce de Dieu, » j'irai demain dans ce que cette brave petite femme appelle une typographie. »
Il était si honteux que, n'osant rentrer et affronter le regard de Caroline, il se réfugia au Coq Gaulois, où il conta tous ses chagrins à la maîtresse de la maison.
« Écoutez-moi, »
lui dit-elle,
« et ne vous désespérez pas. Vous savez bien ce libraire qui vient tous les soirs avec son associé. Ce libraire qui a un si grand nez et qui est si insolent avec tout le monde et si plat avec le critique, eh bien, il fait imprimer. Il doit avoir des relations dans ce monde-là. Je lui parlerai de vous. »
En effet, lorsque les deux associés entrèrent, elle alla les trouver et, quand ils furent bien disposés, elle fit signe à Jacques de venir les rejoindre.
« Vous savez qu'on ne gagne rien, »
lui dit le libraire.
Qu'on fait au moins 2 ans d'apprentissage, qu'on se tient debout toute la journée et que l'odeur du caractère rend souvent malade.
« Pour mon premier état, »
pensa Jacques,
« j'ai diablement mal choisi. »
Mais son parti était pris d'aller jusqu'au bout.
« Je le sais, »
dit-il, comme aurait pu le faire un vétéran de chez Didot ou de chez Clay.
« Eh bien, trouvez-vous ici demain à 8 heures, je vous conduirai à notre imprimerie. S'il y a un coin de libre, on vous le donnera. Je ne vous réponds pas que vous serez très bien. C'est un établissement où il y a des canards. Il faut marcher promptement. »
Ces singuliers mots, canard, lithographie, typographie dansait dans la tête de Jacques. Mais l'épouvante que lui inspirait cette nouvelle sphère où il allait entrer était dominée par la joie de pouvoir dire à Caroline
« Je travaillerai demain ».
Lorsqu'il rentra, Émile, Caroline et Chaise Martin étaient autour du feu. Il se mit à chantonner en allant et venant superbement.
« Jacques chante ?»
dit Arthur.
« Hélas, est-ce le chant du cygne ?»«
Non, » répondit-il en souriant tristement. « J'entre demain dans une imprimerie. »«
Vraiment ?»
dit Caroline en le regardant avec tendresse.
« Alors, demain sera une grande journée pour tout le monde, »
continua Chaise Martin.
« Car tout le monde entre quelque part. Émile fait un voyage pour notre maison, Caroline rentre dans un magasin, d'où cependant elle reviendra le soir. Et j'espère que nous finirons par faire entrer le brigadier dans les souliers pour qu'il s'en aille. Tiens, où est-il donc passé ?»«
Il se repose. »«
Et c'est ça va, ton signe ?»
chanta Arthur sur l'air de Malborougue.
« En voilà qui ferait pâlir le juif errant. Mais est-ce qu'il n'a fait que ça toute la journée, votre lézard ?»«
Ah, pour ça, non !» dit Caroline. « Cette bonne soupe aux choux, c'est lui qui l'a cuisinée. »«
Nous en ferons notre chef !»
s'écria Chaise Martin.
« Demain, je lui apporterai un bonnet de coton. Eh bien, Jacques !»
continua-t-il en se tournant vers celui-ci.
« Voilà un gredin ou un niais, qui n'est ici que depuis hier, et il a inventé, pour se rendre utile, une chose à laquelle vous n'avez jamais songé. Ah, si vous aviez su faire la soupe aux choux, mon cher, mais trop de littérature, voilà le mal !»
Les jours suivants, la maison fut bien triste. Tout le monde, sauf Émile, qui était en voyage, ne se retrouvait que le soir. Jacques était à son imprimerie où il apprenait sa casse. Caroline était à son magasin. Chaise Martin et le critique étaient au café. Le brigadier seul, pris par les pattes, comme disait Arthur, restait toute la journée accoudé au balcon, perdu dans des méditations sans fin. Quand on lui demandait pourquoi il ne cherchait pas à se placer, il se contentait de répondre modestement.
« Oh, un homme en savate n'inspirerait pas de confiance !»
Ces savates étaient devenus un texte de plaisanterie habituel. C'était la seule gaieté de cette maison désolée où fermentaient sourdement tant de passions contraires. C'était en quelque sorte le terrain neutre sur lequel chacun se donnait rendez-vous. On s'était habitué à cet esclave vert qui parlait doucement, qui glissait sur le parquet sans faire le moindre bruit. Il obéissait aux critiques, allait lui chercher tous les soirs sa demi-bouteille d'eau-de-vie cachetée, ses prensados ou ses regalia, et, comme disait Arthur, il rapportait la monnaie. Il obéissait à celui-ci devant lequel, d'ailleurs, il tremblait. Il était doux et complaisant avec Jacques et d'une docilité fanatique avec Caroline. Quand le cercle était formé le soir, toutes les chaises étaient souvent occupées. Il se posait sur un tabouret et il trouvait encore moyen d'être trop long. Il s'enfonçait dans l'ombre, fumait modestement les cigares qu'on lui donnait pour sa commission, puis, à un certain moment, il se sentait pris d'un sommeil invincible. On le voyait glisser le long des murs, et le critique disait
« Il est 10 heures, les lézards rentrent !»
Mais qui peut sonder le cœur des hommes? Sous cette humble sous-quenille battait une âme ardente, et comme le disait Chaise Martin
« Pour traîner la savate, on n'en est pas moins homme !»
Le Danois était épris d'un amour très violent pour Caroline. Il ne lui en avait jamais rien dit, et il est probable qu'on n'en aurait jamais rien su, si un soir que pour une bévue elle l'avait un peu grondé, Jacques en rentrant n'avait entendu partir des sanglots de la pièce qui donnait sur la rue. Il y entra par une porte en même temps que Caroline y entrait par l'autre. C'était le brigadier qui faisait ce bruit. Appuyé sur la table du secrétaire, assis de travers sur une chaise, la tête dans ses mains, les jambes allongées, il sanglotait lamentablement. Et ses jambes avaient des convulsions grotesques.
« Regarde-le, » dit Jacques à Caroline, « comme il pleure avec ses jambes. »«
Qu'avez-vous, mon pauvre garçon ?»
demanda Caroline. Il la regarda hébété, ne répondit pas, se leva brusquement et s'enfuit dans la cuisine.
« Suis-le, »
dit-elle à Jacques,
« et tâche de le calmer. »
Le Danois s'était mis la tête dans le fourneau, où il hurlait en faisant voler un tourbillon de cendres.
« Ah, que je l'aime ! Ah, que je l'aime !»
criait-il.
« Mais qu'est-ce que vous avez ?»
demandait Jacques.
« Qu'est-ce que vous aimez ?»«
Elle, ma cousine !»«
Quelle cousine ?»«
Mademoiselle Foulogne !»«
Lui aussi ?»
fit Jacques.
« Le malheureux, il ne manquait plus que ça. »
Et moitié colère, moitié riant, il alla se coucher, laissant le brigadier qui beugla encore une heure.
« Ah, que je l'aime ! Ah, que je l'aime !»
Lorsque Jacques raconta les amours du brigadier, ce fut un rire général. Seul, Chaise-Martin ne rit point.
« Tant que cet animal n'a tenu que de la place, »
dit-il,
« on a pu le tolérer. Il devient nuisible. Il faut s'en défaire. On lui donnera des bottes. »
Le lendemain, ses bottes arrivèrent. Mais ce fut sous une forme tout à fait imprévue. Un des anciens amis de Foulogne, un des fameux étudiants, Pirou, qui était retourné en province, écrivit qu'il viendrait passer 2 ou 3 jours à Paris pour subir un dernier examen et qu'il comptait déjeuner rue de Buffault. Quoique Émile fût en voyage, on se prépara à recevoir dignement Pirou et tout le monde se réunit pour son arrivée. Au jour dit, il fit son entrée tout flambant neuf, non en costume de voyage, mais en toilette de visite. Il avait surtout des bottes vernies admirablement luisantes. En les voyant, ces bottes merveilleuses, le pauvre brigadier poussa un soupir d'envie. Mais bientôt, il ressentit une joie naïve lorsqu'il entendit Pirou se plaindre, gémir de la gêne que lui causaient ses bottes, gesticuler en grimaçant, puis finalement s'écrier d'une voix piteuse
« Est-ce que vous n'auriez pas des savates ici ? Je suis bien honteux, mais vraiment... »«
Nous en avons de fameuses !»
dit Chaise-Martin.
« Elles viennent de Rome !»
Puis, se levant, il alla dans la cuisine.
« Le Danois !»
dit-il.
« Vous allez donner vos savates à ce monsieur. »«
Et moi, je ne peux pas marcher complètement nu-pied, cependant. »«
Je le sais. Quoiqu'un homme qui est venu de Rome avec des savates trouées ne doive pas être bien difficile. » « Mais j'ai une proposition à vous faire. Vous devez comprendre, brigadier, que nous en avons tous assez de vous ici. Vous nous avez toujours promis que si par fraude, dot ou crime, vous vous procuriez des bottes, vous fileriez promptement. Eh bien, voici des bottes qui arrivent de Caen à votre intention. Elles sont un peu petites, c'est vrai, mais en revanche, elles sont vernies. Nous allons garder ce monsieur 2 heures dans vos savates, vous entrez dans ses bottes, faites vos courses et bonne chance. »
Le déjeuner fut très gai. On le fit durer le plus longtemps qu'il fut possible et chacun, prévenu par Chaise-Martin, apporta son contingent de plaisanteries. Le critique entama des dissertations à perte de vue et fut religieusement écouté par Pirou, qui ne comprenait pas, mais qui admirait le grand homme. Jacques raconta toutes les anecdotes qu'il savait et Arthur fit les calembours les plus monstrueux. Cependant, les 2 heures s'écoulèrent et le brigadier ne revint pas. Pirou commença à parler des visites qu'il avait à faire et il annonça en même temps son intention d'offrir le café.
« Pourquoi sortir ?»
dit Chaise-Martin en saisissant au vol cette proposition.
« Si vous m'en croyez, nous ferons venir le café ici. »
Le café monta. Quand il fut épuisé, le critique, qui avait quelques louis dans sa poche, fit venir 2 demi-bouteilles cachetées. Pirou but et fuma, puis lorsqu'il eut entendu une longue comparaison que fit le critique entre Ponsard et Casimir de la Vigne, et qu'il termina en les déclarant tous les 2 idiots, il se sentit la tête lourde et demanda à se mettre 1 quart d'heure sur un canapé.
« Oui, dormez !»
lui dit-on en cœur.
« Ça vous fera du bien !»
Il dormit jusqu'à 6 heures, et lorsqu'il se réveilla, le brigadier n'était pas revenu.
« Le misérable se sera enfui dans les bottes !»
disait Arthur.
« Non !»
répondait le critique.
« Le misérable était habitué aux savates. Il en aura racheté avec le produit des bottes, et il sera retourné à Rome. »
Nous ne pouvons pourtant pas toujours garder Pirou.
Pourquoi pas? Il a l'air bonasse. Il mettra les savates et on pourra peut-être lui apprendre à faire la soupe aux choux.
Il n'aura jamais le prestige du brigadier.
Pourquoi pas?
Il n'a pas le twin.
On mit la table. Pirou voulait partir, mais cette vue le dompta. On traîna la soirée aussi longtemps que l'on put. Enfin, vers 11 heures, on entendit sonner. Chaise-Martin alla ouvrir. C'était le brigadier. Mais dans quel état, bon Dieu! Il était ruisselant de sueur et se soutenait avec peine sur ses pieds. Il se laissa tomber sur une chaise dans la cuisine et se mit à geindre.
« Où souffrez-vous ? »
Avec ses mains, il indiqua les bottes. Chaise-Martin se baissa pour les examiner. Sur plusieurs points, elles paraissaient s'être ouvertes.
« Mais malheureux ! On vous a confié ce meuble tout neuf, et vous le rendez délabré. Allons, défaites vite ces bottes !»
Le brigadier poussa un soupir et hocha la tête.
« Est-ce qu'il ne veut pas les rendre ?»
demanda Jacques en survenant. Le brigadier, sans répondre, tendit ses longues jambes à ses interrogateurs.
« C'est clair !»
dit Arthur.
« Ils nous offrent de le déchausser. C'est humiliant. Vous ne pouvez donc pas les ôter vous-même ?»«
Non, il me semble qu'elles sont collées à mes pieds. »«
Allons, Jacques, résignons-nous à ce métier de décrotteur. »
Ce fut alors un mélange d'efforts, de soupirs, de jurons, de larmes.
« Elles viendront !»«
Elles ne viendront pas, ou les jambes viendront avec !»
À chaque nouvelle secousse, le brigadier poussait des
« Ah, là, là !»
qui retentissaient jusque dans la salle à manger. Le critique comprit la nécessité de couvrir ses cris, et il objurga vivement l'infortuné Pirou sur ses tendances romantiques. Mais celui-ci n'écoutait pas. Il prêtait l'oreille aux clameurs qui venaient de la cuisine.
« Je crois, »
dit-il,
« qu'on se bat là-bas. »«
Non, ce n'est rien. Ce sont ces messieurs qui font du thé. »
Enfin, Chaise-Martin et Jacques rentrèrent. On aurait juré, en effet, qu'il y avait eu bataille. Ils avaient des taches de boue jusqu'au collet de leur habit.
« Est-ce fait, mes enfants ?»
demanda le critique.
« Oui, mais quel travail !»
On eut donc la douce satisfaction, à minuit, lorsque Pirou déclara qu'il allait se retirer, de pouvoir lui offrir ses bottes. Il était, par bonheur, dans une situation à ne pas s'apercevoir du désastre. Quand il fut parti...
« Et le brigadier ?»
demanda le critique.
« Il a les pieds enflés comme feu de dippe. »«
J'ai peur qu'il ne puisse plus remettre même ses savates. »
Deux ou trois jours après cette scène, il les remit cependant, et disparut. Il entra comme lecteur chez une vieille dame à Montreuil-aux-Pêches. La maison se dépeuplait rapidement. Jacques sentit que, s'il ne prenait pas une résolution énergique, il serait peut-être bientôt forcé d'imiter le pauvre brigadier. Caroline, depuis ces derniers temps, cachait à peine sa froideur et son éloignement pour lui. Elle n'avait d'attention, de soin, de prévenance que pour Chaise-Martin. Elle ne lui avait su aucun gré de la docilité avec laquelle il avait obéi à ses vouloirs et du sacrifice qu'il lui avait fait en surmontant assez sa timidité pour vivre au milieu d'un monde qui n'était pas le sien et où il paraissait aussi étrange qu'il s'y trouvait lui-même étranger. Il était bien évident qu'à 10, 20 ou 30 reprises, Arthur était revenu sur les données de son premier entretien, que peu à peu, il s'était présenté comme un remplaçant possible dans le cas où Jacques serait repoussé, et qu'après avoir beaucoup parlé de la dame de Lyon, il n'en avait plus dit un mot et avait paru l'abandonner. En même temps qu'il avait avancé ainsi dans le cœur de Caroline, ses manières envers Jacques étaient devenues de plus en plus arrogantes et agressives. C'était entre eux à chaque instant des mots à double entente, des réparties pleines d'aigreur, des allusions envenimées. Jacques avait essayé plusieurs fois d'avoir une explication décisive avec Caroline, mais toujours elle s'était contentée de lui répondre.
« Ce que j'ai promis, par honneur je le tiendrai, mais n'y revenons plus. »
« Ce n'est pas par honneur, c'est par amour qu'il faut le tenir. »
« Ah,
l'amour entre nous, maintenant. »
Et elle levait les yeux au ciel en s'en allant, et il ne pouvait lui arracher une parole de plus. Après avoir eu ainsi avec elle plusieurs commencements d'explications qui n'aboutirent point, il se dit que, puisque Chaise-Martin était le maître de la situation et qu'il en était la première cause, c'était à lui qu'il fallait s'adresser. Il avait bien des fois pensé à une solution pratique et simple qui consistait à lui donner un soufflet et à se battre en duel avec lui. Mais il savait que Chaise-Martin, trop habile pour accepter un duel qui, dans tous les cas, lui ferait perdre Caroline, changerait la lutte en un pugilat brutal, ce qui serait une scène déplorable de plus et non un dénouement. Ce qui l'irritait surtout, c'était le silence que Chaise-Martin gardait sur ses intentions, tout en ne les manifestant que trop par ses actes. Il eût voulu lui voir poser franchement sa rivalité, avoir un terrain déterminé où le combattre, et sortir ainsi avec honneur de cette inextricable complication, mais Arthur ne donnait pas si facilement prise sur lui. S'il parlait à Caroline de ses projets d'avenir lorsqu'il était seul avec lui, il n'affichait jamais, même dans l'intimité la plus étroite, la moindre prétention à son amour et à sa main. Si Jacques témoignait trop d'impatience ou laissait échapper quelques paroles blessantes, il se mettait à rire, s'étonnait et ne comprenait rien à ses bouderies et à ses querelles. D'ailleurs, ils étaient rarement seuls ensemble. Mais un jour ou deux après le départ du brigadier, Arthur étant venu chercher des lettres de Foulogne, rencontra Jacques.
« Est-ce que vous êtes pressé en ce moment ?»
demanda Jacques.
« Non, pourquoi ?»«
Parce que je désirerais vous dire quelques mots. »
Arthur le regarda en face.
« Très bien. » « Nous allons causer, n'est-ce pas ? Eh bien, cause-moi. Comme dit Saint-Ville, je suis résigné. »«
Je n'en ai pas très loin à vous dire. Je veux seulement vous demander si le jour de votre mariage avec Caroline, vous aurez le courage de me prévenir. »«
Je vous préviendrai, jeune homme irascible. Je serai désolé de vous faire un chagrin inutile. Mais dans quel coin de votre caboche prenez-vous mon mariage avec cette demoiselle ? Est-ce que vous n'êtes plus fiancé ?»
« Croyez-vous que je ne vois ni vos empressements auprès de Caroline, ni vos continuels apartés, ni sa froideur pour moi, ni sa préférence pour vous ? Je sais où tout cela doit vous conduire l'un et l'autre, et me conduire aussi. Je ne suis pas votre dupe, et, avant de me retirer comme il convient à ma dignité, je veux vous reprocher ce qu'il y a d'indigne et de déloyal dans votre conduite. »
« Pas de gros mots, n'est-ce pas ? Craignez seulement qu'à force de parler de ce mariage extravagant, vous n'en donniez l'idée à des gens qui n'y pensaient guère. Sans votre jalousie, je n'aurais peut-être jamais fait attention à Mademoiselle Foulogne, et elle, de son côté, ne se douterait pas que j'existe. Vous avez si bien aboyé au loup que le loup est sorti du bois et qu'il est venu. Je ne vous conseille pas de continuer votre vacarme. »
« En effet. » Vous ne devez éprouver aucun plaisir à me voir, quoique un peu tard, défendre mon bonheur menacé.
Mais qu'est-ce qui vous prend ? Qu'est-ce qui en veut à votre bonheur ? Voyons, vous espérez me fâcher ? Vous n'y réussirez pas. Au lieu de nous regarder comme deux chiens, tâchons de parler comme des hommes. Vous essayez de me mettre hors des gonds pour savoir au juste si j'aime Caroline, si je veux l'épouser, et si vous devez m'étrangler tout de suite ou dans 8 jours. Mais vous n'êtes pas encore assez fort pour me confesser. Tout ce que je veux vous dire, c'est que, si vous continuez à être ce que vous vous montrez depuis 3 mois et que votre fiancée se défiance, si elle jette les yeux sur moi pour vous remplacer, quoique je sente vivement combien je suis loin de vous, je ne me sauverai pas et je ne dirai pas non. Maintenant, supposez que cet événement fâcheux arrive. Vous ne vous tuerez pas. Vous avez déjà essayé et je me suis donné le plaisir ce jour-là de vous faire dîner chez Bonnefoy, parce que j'aime à me moquer des gens qui n'exécutent pas leurs projets. Que ferez-vous donc ? Vous vous traînerez aux genoux de Caroline ? Vous ferez 1000 lâchetés ? Elle commencera par avoir de la compassion, mais comme elle n'a plus d'amour, elle finira par avoir du dégoût. Un beau jour, quand je dis beau, ce n'est pas pour vous. Elle vous mettra la porte sur le nez, ou bien elle déménagera sans laisser son adresse. Et en entrant au café pour noyer vos chagrins dans un petit verre, Vous lirez à la troisième page d'un journal quelconque « Publication de mariage entre M. Chaise-Martin, moi ou un autre, comme vous voudrez, et Mademoiselle Caroline Foulogne. » Et vous direz d'une voix vibrante « Garçon, un autre journal !»
Et il se mit à rire d'un méchant rire. Où voulez-vous en venir ? Dit Jacques, qui suait de colère sous cette parole acérée.
À ceci, je ne sais pas si Caroline est gagnée pour moi, et ce n'est pas là la question. Mais il est à peu près évident qu'elle est perdue pour vous. Au lieu de m'obstiner dans une fidélité aussi acariâtre qu'humiliante, à votre place, moi, je ferais une retraite honorable. Je ne vivrai pas indivise avec des gens qui ne se soucient plus de moi. Je ne leur donnerai plus de mes nouvelles, et je ne demanderai plus des leurs.
Je comprends qu'une rupture venant de moi vous servirait merveilleusement, mais savez-vous...
Oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire, et comme ça n'est pas amusant, je m'en vais vous le dire moi-même. Vous vouliez me déclarer que Caroline est votre premier amour, qu'elle sera le dernier, que vous avez mis votre vie en elle et que tant qu'elle ne vous chassera pas, vous ne vous en irez point. À quoi je réponds que ce sont des enfantillages et que si vous vivez âge d'homme, ce dont je doute, vous aurez une douzaine d'amours et vous oublierez si parfaitement votre premier. Que si, dans 4 ou 5 ans, je vous invite à dîner chez moi, vous me demanderez avec votre air myope, vous savez, quelle est donc cette dame là-bas ? Laquelle ? Celle qui a des rubans roses ? Non, l'autre ? C'est ma femme, parbleu. C'est Caroline. Tiens, c'est étonnant, je ne la reconnaissais pas. C'est ainsi, mon cher, que se terminent invariablement les premières amours. D'ailleurs, une jeune fille n'est pas votre fait.
Je ne vous demande pas de conseils.
Oui, mais moi je vous en donne. Je vous ai beaucoup observé. Non parce que je m'intéresse à vous, mais parce que ça m'amusait. Vous êtes nerveux, délicat, ombrageux, prompt aux larmes comme au rire. En un mot, vous avez le cœur tendre. Ça, c'est une affaire de fibre. Si vous ne mourrez pas avant 30 ans, vous vous ratatinerez. Vous deviendrez sec comme un parchemin, et vous aurez le cœur dur comme pierre. Mais ceci est un détail. J'en reviens à ma thèse et je dis, vous avez 23 ans? Il vous faut une femme entre 30 et 35, qui vous appelle son enfant et qui vous donne de temps en temps une tape sur la joue. Elle vous apprendra à marcher droit, à ne pas rire comme une crécelle, à ne pas vous tortiller la barbe quand on vous regarde, à vous asseoir, à entrer, à sortir, à saluer sans renverser les chaises et autres menus grâces que vous ne possédez pas, et vous lui témoignerez une reconnaissance quotidienne, ce qui durera jusqu'à l'apparition de sa 20e ride. Ça se fait et ça se voit tous les jours dans le monde. Si vous le désirez, j'ai votre affaire. Une bonne et gentille femme de 28 à 35 ans, bien en chair et fraîche en couleur. La maison est bonne, on y mange très bien. La dame, il est vrai, appartient à l'espèce belle âme et ne parle que d'idéal, de poésie, de vertu, de lune, d'étoiles et le reste. Mais c'est une chance pour qu'elle ne vous compromette jamais. Et de plus, ça prête à la phrase... Ce qui est très utile pour les soirées d'hiver. D'ailleurs, elle se rattrape largement dans le particulier. Et je crois qu'avec tout ça, vous pourrez mijoter un joli petit amour de 2e classe. Ajoutez qu'elle a 3 filles, des anges, et je ne vois pas pourquoi, si vous vous conduisez bien, si vous avez assez d'esprit, sans en avoir trop cependant, si vous êtes discret et surtout empressé, vous n'épouseriez pas la dernière. Essayez, et je suis sûr que dans 1 an ou 2, vous me remercierez. Et qu'elle me remerciera aussi. Tandis que moi, sacripant, je dirais comme le père Voltaire, « J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. »
« Assez !» interrompit Jacques. « Assez ou je quitte la place. »
« Nous nous fâchons. Ah, que c'est mal. Mais je vous ai parlé comme un père. Moi, j'ai fait comme le pélican blanc. Je me suis ouvert les entrailles. Je vous ai offert d'anciennes patronnes que j'avais sur la planche. Et tu te fâches, jeune ingrat, sérieusement. Que voulez-vous de moi ?
La morale de votre conversation.
En 2 mots, la voici. Faites-vous chiffonnier ou diplomate ? Aimez ou n'aimez pas d'honorables vieilles femmes, ça m'est bien égal. Et vous êtes parfaitement libre. Mais, dans l'intérêt de tout le monde, et surtout dans le vôtre, monsieur Jacques, renoncez à Caroline.
Il sortit.